Alors, bienvenue à tous et chacun ce matin. Et j'aimerais commencer, évidemment, en souhaitant une bienvenue et une joyeuse anniversaire des mères pour tous les mamans dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes précieuses aux yeux de l'Éternel. Et à preuve, ce matin, on va voir Jésus qui honore sa maman et qui en prend soin même à la croix. Un geste d'amour profond dans sa plus grande douleur. Et il va prendre soin Jésus de sa maman, tellement que maman est importante. On veut souligner et apprécier les pleurs des mamans. On veut souligner et apprécier aussi leur sueur, parce qu'ils travaillent à la sueur de leur front à faire toutes sortes de choses pour la famille. On veut apprécier aussi leur travail dans l'ombre continuellement, quand ça paraît pas, quand tout le monde est en train de se plaire à faire ci et ça, que derrière, il y a une maman qui travaille fort pour permettre cette ambiance. On veut remercier les mamans pour l'ambiance chaleureuse familiale qui contribue, par l'harmonie qu'ils travaillent, les relations. Parce que généralement, quand il y a un souci émotionnel, on est plus porté à appeler maman. Souvent, dans bien des foyers, qui a une plus grande écoute, qui a une plus grande sensibilité et qui est disponible souvent plus facilement que le papa, des fois, dans la rapidité des choses de la vie. On veut apprécier les mamans aussi pour toute la charge mentale qu'elles portent. Ma femme me le rappelle souvent, la charge mentale des femmes. Tout le souci qu'elles ont et qu'elles portent, même une fois que les enfants sont partis de la maison, continuent à porter sur leur cœur le souci du bien-être de leurs enfants adultes, leurs épreuves. Et on veut apprécier et dire merci Seigneur pour ces mamans qui ont toujours ce cœur disponible, bien disposé envers leur foyer et pour lequel on est tous bénéficiaires. Est-ce qu'on peut applaudir et honorer les mamans, s'il vous plaît, ce matin? J'aimerais juste vous rappeler aussi, avant de commencer, deux, trois petites choses. Vous savez, on a toujours des besoins ici, autant à la projection, dans les équipes qui sont là au son et à la projection, d'avoir des gens en formation que sur la scène. Vous appréciez la louange, mais ça demande beaucoup de préparation. C'est pas évident de garder des équipes en rotation, d'avoir des musiciens pour chaque équipe. Et si vous avez des expériences au niveau de la louange, la direction de la louange, au niveau du son, de la projection, venez nous voir. On aimerait vous intégrer dans nos équipes. Et on sait pas la variété d'expériences que vous avez eu dans le passé, dans une autre église, vous arrivez de l'extérieur, vous avez des dons, des talents, mais ce n'est pas écrit dans votre front. On ne le sait pas juste en vous regardant demain. Ah! Lui, il a déjà dirigé une église. Ah! Lui, il a déjà fait le son. Elle a déjà fait la projection. On ne le sait pas. T'sais, on ne peut pas deviner. Le Seigneur ne nous demande pas de le deviner non plus. Mais il vous invite. Venez nous le dire. Venez offrir vos services. On aimerait vous accompagner à trouver l'endroit de bénédiction pour vous ce matin. N'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est un besoin continuellement devant nous, outre tous les besoins. Je vous rappelle, le 31, c'est notre offrande spéciale d'amour. Alors, je vous invite à vous y préparer ensemble, dans la prière, à consulter Seigneur. Ce ne soit pas juste quelque chose que je fais, là, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma relation avec Dieu. Donc, toute l'information est là. Je vous invite à vous y préparer pour le 31. Et ce matin, avant de commencer la lecture des Écritures, j'aimerais prier pour une maman en particulier, pour laquelle on m'a sensibilisé ce matin. Une maman qui vit très loin d'ici, avec sa fille d'environ 8 ans, dans un camp de réfugiés en Guinée. Et ça se trouve être la fille de mon frère Doïve, qui encore cette nuit pleurait et priait pour sa fille qui est à l'autre bout là-bas, qui n'a pas pu se rendre malgré toutes les démarches qu'ils ont faites. On ne comprend pas les délais de Dieu. Des fois, c'est dur et c'est porté sur le cœur des parents longtemps. Et j'aimerais prier pour ça ce matin avant qu'on aille dans la lecture des Écritures et prier que le Seigneur bénisse aussi notre temps en parole. OK, prions ensemble. Papa Céleste, ce matin, on veut te remercier pour la vie que tu nous donnes pour cette journée spéciale, pour souligner ces femmes, leur sacrifice, leur dévouement. Et Seigneur, on veut les honorer. On veut les honorer parce que toi-même aussi, tu as honoré ta propre mère sur terre, Seigneur, un geste de respect profond, d'amour et d'encouragement à suivre ton exemple également. Et Seigneur, on veut penser en particulier à cette femme avec son enfant loin, de la famille, dans une situation plus vulnérable, en Guinée, dans un camp de réfugiés, et pour ce long délai de temps. Seigneur, tu connais toutes choses, il nous échappe tellement d'informations, de connaissances pour comprendre tes délais, Seigneur. Mais nous te prions pour cette femme, pour cet enfant. Protège-les, Seigneur. Veille sur eux. Et Seigneur, il y a peut-être d'autres situations comme ça de maman ce matin que je ne connais pas, mais toi, tu connais les besoins des mamans ce matin. Tu connais ce qui est lourd sur leur cœur. Bénis, fortifie, console. Seigneur, donne du discernement. Donne de la persévérance, Seigneur, lorsqu'il y a besoin. Donne, Seigneur, à ces larmes, à cette anxiété, à cette sueur, ce sentiment de ta présence pour encourager à persévérer. Seigneur, ce matin, on va lire ta parole. On te prie de la bénir dans nos cœurs, de nous instruire et qu'on ne puisse pas repartir de ce lieu sans avoir reçu de ta part une parole pour notre âme, une parole pour prendre soin de notre âme. Et nous te prions et te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter dans le livre de Jean, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, on est dans une série qui s'appelle « Jésus t'appelle, répondras-tu ?» Une série de rencontres spéciales que Jésus a dans Jean. Jean se démarque vraiment dans son style d'écriture et beaucoup des rencontres qui nous sont décrites en plus grand détail, qu'on ne retrouve pas dans d'autres évangiles. Et là, on voit son souci relationnel beaucoup plus démarqué dans le style dont écrit Jean. On voit ses discussions avec les gens, leurs réflexions, hommes et femmes de part égale. Jésus se soucie des dieux, des deux. Et on voit vraiment une variété d'hommes et de femmes de tous les horizons que Jésus rencontre dans toutes sortes de situations vraiment, vraiment variées. Et donc, c'est extrêmement touchant. Et donc, on a sélectionné une douzaine de passages de rencontres avec Jésus qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et une de celles-ci se trouve à être cette fameuse histoire de la noce de Cana que j'aimerais vous lire à l'instant même et après ça, on va parcourir justement les leçons de ce texte. Or, dans le chapitre 2 de Jean, le troisième jour, ici on comprend à la suite des versets qui sont lus auparavant, troisième jour après la rencontre de Nathanaël, de André et Jean, qui est décrit, parce qu'on décrit quatre jours dans le chapitre précédent, il y a eu une noce à Cana en Galilée. Alors, il y a Cana en Galilée, il y a Cana un peu plus au nord, et on le spécifie ici. Et là, la mère de Jésus était là. On ne la nomme pas Marie, c'est la mère de Jésus. Et Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. On comprend que peut-être qu'il n'y a pas encore tous ses disciples, mais il en a mentionné six au chapitre précédent. Il est accompagné d'une partie des disciples, du moins jusque-là. Et comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Nous n'avons pas de vin particulier. » Elle va voir Jésus. Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Or, on ne comprend rien de ce qui vient de se passer là ici, là, mais il y a un dialogue. On va essayer de comprendre c'est quoi ce dialogue-là ici. Là. Parce que c'est sûr que si je m'adresse à ma femme en disant « Femme », c'est sûr que j'aurai toute votre attention ici. Hein? C'est sûr, on va dire, OK, il est un peu mal poli. Alors, ça sort un peu drôlement dans notre traduction, mais c'est comme si en réalité, il avait dit « Madame ». Il fait une distance ici entre le rôle de mère et cette femme qui lui donne ici une demande. Mais c'est pour à l'époque, de dire « femme » comme ça, c'est pas impoli, on le voit ailleurs. C'est plutôt comme dire « Madame », mais on voit une distanciation qui se fait avec sa mère et on tente de comprendre le dialogue et l'issue ici exactement. Je continue au verset 6. « Il y avait six jarres, des gros jarres de pierre, destinées au rite des Juifs de purification. » Donc, ils gardaient toujours dans des jarres de pierre. C'est plus facile de garder ça frais, garder ça sans qu'il y ait de pourriture, etc., dans des jarres de pierre. Ils pouvaient prendre approximativement plus ou moins entre 80 et 120 litres, OK, grosso modo. Il y en a six ici. Elles contenaient chacun deux à trois mesures. Une mesure était autour plus ou moins de 40 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez l'eau d'eau ces jarres. » Ils les emplirent jusqu'au bord. Fait qu'il n'y a plus rien qui peut être ajouté, là. Il y a de l'eau jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez au maître du repas. » Et ils lui portèrent. Et il goûta l'eau, devenue vin. Et il ne savait pas d'où il venait. À la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Ainsi, il s'adressa au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, ou en tout cas sont réchauffés, du moins, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Il fait la louange ici de celui responsable. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et on lit après ça qu'il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils ne restèrent que peu de jours. Fait que là, on comprend ici que probablement même les frères étaient là de Jésus à cette noce où ce que maman est invitée sans avoir une responsabilité. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Jésus n'était pas un gars plate. Vous saviez ça? Jésus aimait aller aux choses normales de la vie, aux fêtes qu'il y avait. Contrairement à Jean-Baptiste, plus solitaire dans son ministère, qui était dans le désert, Jésus participe à des fêtes et même va se faire reprocher, même à un moment donné, par les religieux, ses ennemis, vont l'accuser d'être un buveur, d'être avec ces gens-là, parce que Jésus s'intéresse aux fêtes, à être là où sont les gens, participe à un mariage, et que le Seigneur bénisse ce couple qui a invité Jésus, qui ne réalisait même pas ce couple-là, que le Messie d'Israël était à leur mariage. Quel mariage, n'est-ce pas? Hein? C'est wow! Qu'ils ont dû réaliser plus tard. Qui était-il? On ne le sait pas exactement. Le texte ne nous le dit pas malgré toutes les spéculations. On a vu jusqu'à présent la réponse de Pilate qui était négative. On a vu la réponse de cette femme samaritaine. On a vu la réponse de Nicodème, un religieux, à un autre horizon complètement différent de cette femme samaritaine. Et la femme samaritaine, c'est Jésus qui va vers lui, alors que sur Nicodème, c'est Nicodème qui s'en va de nuit rencontrer Jésus. Deux rencontres extrêmement différentes et pourtant, l'élément déterminant, c'est d'avoir rencontré Jésus. Et puis Thomas, qui invite à une foi totale par son exemple. Jésus invite à une foi totale en lui. Et aujourd'hui, on a la réponse de Marie dans ces deux textes qui encadrent le ministère de Jésus au début de son ministère, au premier miracle ici. Marie, elle est là, mais on ne la nomme pas Marie, on la nomme la mère de Jésus. Et elle se trouve à la croix, au tout début et à la fin du ministère de Jésus. Pour vous aider à vous situer ici, Cana, vous l'avez sur la map, présente. Alors, lorsqu'on est à Nazareth, juste tout près, à 7 kilomètres, lorsqu'on prend la route pour aller prendre encore aujourd'hui l'autoroute qui nous amène à Capharnaüm ou qui nous amène à Tibériade, c'était mon cas lorsque je suis allé le 30 novembre de 2007. J'étais à Nazareth et on a pris la route pour aller vers Tibériade pour la nuit. Et je regardais mes photos cette semaine et j'ai retrouvé justement des photos de quand j'ai passé à Cana parce que c'était pas prévu d'arrêter. J'ai signalé, j'ai vu des vignobles, on est à Cana, il faudrait arrêter ici. Et donc, on a arrêté justement à Cana Steakhouse. Hein? C'est tout qu'un steak, cela, là. Et à côté, bien évidemment, vous voyez dans l'endo mon père, à côté de notre interprète, mon petit frère, au First Miracle, une petite épicerie, First Miracle. Évidemment, tout est marketing, là, évidemment, on veut vendre le plus de choses possible. Et j'ai été béni, j'ai pu ramener, évidemment, une authentique bouteille de la noce de Cana. Une très, très ancienne cuvée, là. Non, mais si vous avez des doutes, là, il y avait une étiquette d'authentification, là, puis tout écrit en hébreu, là. Vous ne me croyez pas? Ah non, c'est écrit 2006, cuvée 2006. Ça y ressemblait beaucoup, en tout cas. Puis elle est vide, comme vous pouvez voir, parce que quand je l'ai achetée, je l'ai partagée le mois suivant avec mes collègues pasteurs, un repas qu'on avait à Noël. On l'a partagé, une authentique bouteille de Cana. Bon, c'est pas écrit pour le mariage de Cana, là, mais c'est les vineyards, donc c'est les vignobles de Cana. Une authentique bouteille de ces vignobles de Cana, tout écrit en hébreu, si ça vous intéresse à regarder. Mais bon, ce n'était pas un restant de la réserve de Jésus, OK? Mais probablement, il aurait été une bonne place pour essayer d'en vendre ça avec une petite affaire, là, mais c'est... Alors, c'est sur la route. Et donc, après ça, on voit Jésus qui va aller justement vers Capharnaüm, où sa demeure, et qui va refaire après ça le reste du parcours jusqu'à Jérusalem peu de temps après, parce que c'est peu de temps avant Pâques. Un endroit remarquable, et quand on sort de la ville, on voit justement des vignobles à Cana qui sont là, duquel a été préparé ce très bon vin, qui avait un goût très distinct. J'en ai ramené deux d'Israël, du Golan et un de Cana. Et les deux avaient un goût très différent, de par leur sol, hein, etc., la manière que c'est fait. Alors, un goût très différent de ce qu'on a ici. Mais ce n'était pas une authentique. Marie, et dont l'histoire nous invite à croire et rester au pied de la croix ce matin. De croire en Jésus et de rester au pied de la croix. La première chose qu'on remarque dans cette histoire, c'est qu'on a une femme ici extrêmement sensible à la situation qui est devant elle. Culturellement, vous savez, le vin au mariage, les mariages du premier siècle différaient considérablement de ceux d'aujourd'hui. Une période de fiançailles d'un an précédait la cérémonie proprement dite, beaucoup plus contraignante que les fiançailles modernes d'aujourd'hui, beaucoup plus lousses. Seules les lettres de divorce permettaient de mettre fin à cette fiançaille. Selon la Mishnah, recueil des traditions juives du deuxième siècle, à l'issue du mariage, de la cérémonie de mariage, le marié et ses invités se rendaient au domicile de la mariée. Et cela se passait généralement la nuit, lors d'une spectaculaire procession en flammes. Et normalement, si c'était, selon la coutume juive, si c'était une femme, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, si c'était une femme vierge, contrairement à une femme veuve qui se mariait le jeudi, le mercredi, c'était le jour pour se marier pour les femmes vierges. OK? Alors, évidemment, on se faisait des idées si tu n'étais pas marié le mercredi, mais bon, c'est un autre sujet. Il y avait une grande procession pour éviter, évidemment, le plus de gens possible à participer à cette grande célébration. Là où des discours étaient prononcés, des vœux bonne volonté sont exprimés publiquement, et ensuite tout le monde se rendait chez le marié où le banquet de mariage principal se faisait. C'était festif, très organisé, et le festin pouvait se prolonger, mélanger de cérémonies, de célébrations, de la première nuit, et ensuite, des fois, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Bon, j'imagine pas tout le monde se tapait 7 jours de noces, là. Ça devait être assez lourd. Et des fois, on en dit beaucoup sur les noces juives. Des fois, je me demande comment loin qu'on va authentiquement avec ça, dans beaucoup de spéculations ou de traditions. Est-ce que tout le monde pratiquait tout l'ameublement de la tradition? Je ne sais pas. Mais évidemment, pour le marié qui accueillait, c'est important de bien accueillir. C'est une honte, évidemment, de ne pas accueillir convenablement tous les invités pendant cette période de temps-là. Les gens venaient avec des cadeaux, évidemment. Et c'était notre festivité, donc il fallait les recevoir noblement. Et Jésus est invité avec ses disciples et sa mère est présente. On le mentionne à quelques occasions. Sa mère, qui n'est pas nommée ici comme étant Marie, mais sa mère, et qui semble avoir des bons liens ici avec les gens parce qu'elle semble avoir une responsabilité ou très proche. Elle a un souci, elle s'implique. Des traditions anciennes dans des livres apocryphes qui se sont ajoutés au deuxième siècle, des traditions qui parlent que peut-être c'était la sœur, la mère du marié, c'était la sœur de Marie. D'autres vont aller aussi loin que dire que c'était même Jean lui-même qui était le fils de Salomé, Jean le disciple, et c'est pour ça que ça serait rattaché à l'évangile de Jean. Le texte ne nous le dit pas. Des spéculations anciennes, des traditions anciennes dont des fois... les fondements sont questionnables. Alors, pour une raison quelconque, en tout cas, ça n'a pas été inclus. Ce n'est pas ça qui semble être le fondement de ce qui est important à retenir ici. Et c'est intéressant, Marie n'est pas nommée par son nom. Elle est nommée la mère de Jésus. Ici, et aussi même au pied de la croix, ce n'est pas Marie, c'est sa mère. Intéressant, et ça a amené évidemment à couler beaucoup d'encre sur le pourquoi, mais une chose est claire ici, l'accent n'est pas mis sur Marie, elle est mis sur Jésus. Tout l'évangile de Jean, dans tous les discours, Jésus est le centre de l'attention, et Jean le fait de manière très distincte. C'est pas les personnages, c'est la rencontre avec Jésus, c'est le Messie lui-même, et à chaque chapitre, c'est la découverte de l'identité de Jésus qui est sans ambiguïté. Il est le Fils de Dieu, ça vient d'être dit dans les versets précédents, et toutes les manifestations, toutes les rencontres, toutes ses paroles manifestent son autorité, sa grandeur et la gloire du Messie qui est maintenant sur terre. Et chaque chapitre en témoigne, donc une distraction peut-être qui est enlevée de cette façon-là. Une relation aussi qui est redéfinie. C'est la mère de Jésus, mais ici c'est Jésus qui est au centre. Et là, c'est un adulte qui doit voguer dans la volonté de Dieu plutôt que sous l'autorité de sa mère. Un homme mûr, un homme qui a un appel particulier. Et il y a une distanciation ici qu'on ressent. Et il dit, tu peux pas me dire ce que je dois faire, j'ai une heure spécifique et ces choses-là, je dois les faire. Mais elle lui fait confiance et elle ne prend pas autorité sur lui. Et Jésus met une certaine distance ici humainement entre son appel et le rôle de sa mère ici. Et aussi, ça encadre aussi un peu le récit, parce qu'on le retrouve au début et à la fin, la présence de Marie, au début du ministère de Jésus, premier miracle, et finalement au moment clé de son ministère, qui est sa mort, qui va être suivie de sa résurrection, dont Jean souligne avec beaucoup d'aplomb. Mais Marie voit ce qui manque. Marie remarque le problème. Et comme n'importe quelle maman responsable, qui certainement avait un lien très proche avec les gens du mariage, les gens chez qui ils étaient, bien, elle ne pouvait pas être indifférente d'un problème qui venait d'arriver et qui était sous ses yeux. Il manquait de vin. On ne sait pas rendu à quel moment de la fête c'était rendu qu'il manquait de vin. Est-ce que c'était plus vers la fin? On ne le sait pas. Mais elle a remarqué ça et elle intervient. Elle ne peut pas être indifférente, dire « Ah, ben c'est son problème. » Non, Marie n'est pas de même. Nous autres, les hommes, on est plus facile à faire ça. Ben là, c'est son problème. Là. Mais la maman, elle a de l'empathie. Un souci relationnel tellement fort. Elle voit le manque, elle voit le pétrin dans lequel ça va placer le marié particulièrement et sa famille qui reçoit. Et elle n'est pas capable d'être indifférente. Et pour une raison quelconque, on se dit, pourquoi on va voir Jésus? Qu'est-ce qu'elle s'attend exactement de Jésus? Il manque de vin, veux-tu qu'elle l'a acheté, en acheter à quelque part? C'est quoi qu'elle s'attend à faire? Qu'il fasse un miracle? On ne sait pas, il n'y a rien dans l'attente ici qui est clairement identifié, mais elle se tourne vers Jésus. Sans nous dire au bout autant quelle est son attente exactement, mais elle s'attend à quelque chose de sa part dans ce dialogue particulier qu'ils ont ensemble. Et vous savez, en regardant comment elle est sensible dans cette situation-là, on ne peut pas que passer sous le silence cette attention de la maman. Que Dieu nous appelle à être attentifs aux besoins des autres et de ne pas en être indifférent. Il y a tellement une belle application ici dans son souci. Évidemment, le texte n'a pas été écrit pour ça, mais il y a une application ici certainement constructive pour nous, cette sensibilité maternelle qu'on voit chez Marie. Au travers des événements naturels de la vie, joyeuse et triste. Vous savez, les rabbins disaient, c'était très important, de l'époque, 120, il n'y a pas de joie. Alors, pas devant ton mariage, tu étais dans le trouble. Ça paraissait pas bien culturellement parlant. Peu importe aussi comment les traditions nous parlent du vin qui était plus dilué, peut-être moins fort que nous en réalité. Il y a toutes sortes de spéculations là-dessus. C'est pas toujours clair et évident. Mais ce qui est clair ici, c'est qu'elle a un souci. Elle n'est pas indifférente. Et elle veut agir pour aider dans la situation. Et n'est-ce pas là une des belles qualités des mamans? Une qualité qu'on devrait tous avoir, cette sensibilité les uns pour les autres, comme Marie l'a exprimé ici en allant à Jésus. Maintenant, ce qui est plus important encore, c'est qu'elle a une foi confiante en Jésus. Elle va voir Jésus et lui en parle. Et là, évidemment, on parle ici de cette discussion-là pas claire. Et en gros, les auteurs se partagent les opinions dans deux camps. Il y a deux façons de comprendre les paroles qu'elle donne ici. Soit que ça pourrait se répondre comme ceci. En quoi cela me concerne-t-il de la part de Jésus? Parce qu'il va répondre justement de manière assez « Quoi à moi et à toi, femme? » C'est littéralement comme ça que c'était. « Quoi à moi? » C'est quoi le lien entre nous là, pour que tu me parles de ça? Et d'autres vont dire, mais quelle autorité as-tu sur moi pour me demander une chose comme ça? Les paroles sont tellement courtes, la phrase tellement coupée, que comme certains proverbes, des fois qui ont peu de mots, qui font interpréter un peu le sens, ces paroles portent un peu à confusion et à interprétation dans la plupart des auteurs, qui comprennent ici qu'il n'y a rien de mal poli dans sa réponse, comme parler de femme, madame, mais on voit une distanciation, ce que Jésus ne veut pas se faire dire par elle quoi faire, mais aussitôt qu'elle a dit ça, on ne comprend pas ce qu'elle a compris, mais elle a dit, en tout cas, faites ce qu'il va vous dire. On ne nous dit pas ce qu'il va faire. Mais elle est convaincue que Jésus s'en occupe de la façon qu'il voudra. Elle s'est confiée à Jésus dans cette situation-là. Et les serviteurs qui sont présents se font dire tout simplement par qui semble avoir une autorité, cette femme-là, vous écouterez ce que cet homme-là dit, puis faites-le tout. Alors, aller plus loin que ça, ça nous amène dans de la spéculation et je ne voudrais pas aller dans trop de spéculation. Et il parle ici de son heure. Donc, ce n'est pas encore le temps que je me manifeste. Et on va parler de son heure à différentes occasions à travers l'Évangile qui finalement se manifeste dans sa mort et sa résurrection. C'est son heure. L'heure où il va manifester toute sa puissance, manifester sa victoire, manifester qui il est ultimement, même s'il se révèle progressivement à travers tout ce temps-là. Il dit, il y a une heure, je ne peux pas tout révéler là. Et ici, ce n'est pas tout le monde qui va savoir ce qui s'est passé. Il y a seulement un groupe restreint de gens qui savent, le responsable n'est pas au courant, le marié n'est pas au courant. Ce n'est que Marie et ce n'est que les serviteurs et aussi les disciples après qui ont cru et qui sont au courant. Pas tout le monde le sait. Jésus aurait pu décider. Et c'est intéressant, hein? Jésus ne fait pas un « OK, tout le monde, venez ici, là. je vais changer l'eau en vin. Regardez bien mon prochain truc de magie, là. Il ne fait pas ça, Jésus. Il ne porte pas attention sur lui-même. Il intervient dans la simplicité de la vie avec aucune baguette magique, aucune parole dite, aucune imposition de main, aucun flafla. Il n'y a rien, qui a été fait pour montrer une sorte de méthode quelconque. Jésus fait juste remplir à rebord par les serviteurs ces cruches d'eau-là. Fait qu'on comprend qu'il n'y a rien qui a été ajouté. Il n'y a pas un peu de sucre. Il n'y a pas eu de temps non plus de fermentation. Il n'y a pas eu une petite recette secrète qui a été faite instantanée. On l'aurait trouvé entre-temps pour faire du vin instantané. Là. Puis ça doit être sûrement pas très bon. Parce que sa qualité vient de la fermentation, du temps. Hein? C'est l'élément particulier du vin. Et sans aucun facteur de temps, sans aucune méthode apparente, que par la simple obéissance à Jésus, cette cruche d'eau-là, lorsqu'ils vont puiser dedans et servir, à quelque part entre les deux, c'est devenu du vin. À quelque part entre les deux, c'était pas juste du vin. C'était du vin excellent. Excellent. Comme un vin qui a vieilli, dont on goûte les goûts particuliers, qui peut-être est dans un tonneau et qui va chercher une certaine saveur. Il y a toutes sortes de méthodes, n'est-ce pas? Puis quand tu goûtes de la qualité, là, tu sais, ça paraît. Que quand ça goûte la piquette. On a tous déjà eu à m'amener de la piquette. Hein? Puis tu le remarques. Dieu nous a donné les goûts pour apprécier. Et aussitôt que c'est dans la bouche du maître, le troisième homme, dans le fond, qui est responsable de tout le banquet, c'est le nom qu'on donne pour cette personne-là, le surintendant de tout ça, il goûte, puis ben voyons donc. On ne fait jamais ça, offrir le meilleur vin après. C'est le contraire au début, puis après ça, on met le moins bon quand les gens sont moins difficiles. Puis, mais non. À quelque part, entre le moment de ce transport, sans rien d'intervention extérieure, ça devient du vin. Extraordinaire. Unique. Unique comme miracle. Mais Marie, vous savez, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va à Jésus. Elle va à Jésus pour ce besoin, dans ce dialogue aussi court et peu agréable qu'il semble être à première vue. Elle va à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, montrant une confiance totale en son fils, pas juste comme son fils comme le Messie, dont elle sait qu'à un moment donné va se manifester sa personne. Et la vraie foi, vous savez, consiste à faire confiance même quand on ne comprend pas. Sans manifestation, sans flofla, sans apparence de méthode, sans rien de tout ça, de Seigneur, je te fais confiance à toi et à toi seul. Sans comprendre comment, quand, mais tu mérites ma confiance. Tu es digne de confiance. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait confiance à Jésus. Une fois qu'il ouvre la porte au miracle, évidemment, je vous ai parlé des jars et le nombre de quantités. Un auteur a dit ici, les 6 jars de pierre qui contiennent plus ou moins les quantités que je vous ai parlé tantôt permettraient d'environ 2400 services d'une tasse. Fait qu'il ne devait pas en manquer, en principe. Mais on comprend que c'était une grosse fête. Il y a beaucoup de monde. Et les serviteurs ici obéissent et l'eau devient du vin sans explication. Et Jésus honore la foi simple et persévérante de sa maman ici. Maintenant, quel est le motif de ce miracle, on peut se demander. Et ça, ça fait couler de l'encre aussi. Quel est le but de ce miracle unique que Jésus amène ici dans cette situation particulière? Ce n'est pas planifié, on dirait que c'est spontané. Un signe, vous savez, c'est le mot utilisé par Jean. Jean, au lieu de parler de « voici les signes », au lieu de parler des miracles qu'on retrouve dans les évangiles, il utilise le mot « signe ». Évidemment, « signe » parle non seulement d'un miracle, mais parle aussi de quelque chose qui est symbole de quelque chose d'autre. Un signe est une chose qui renvoie à quelque chose de plus grand. Les gens ne devaient pas seulement croire aux œuvres de Jésus, ils devaient aussi croire en lui et en son Père qui l'avait envoyé. Jésus revient continuellement là-dessus. Si vous voulez croire en moi, c'est bon, mais vous voyez en celui qui m'a envoyé que je suis vraiment le Fils de Dieu et que c'est le Père qui m'envoie, le Créateur, pour créer ce pont entre le ciel et la terre. Celui-ci sert à interpréter le signe. Et on voit dans Jean, chapitre 5, chapitre 6, souvent avec les signes, les pains, hein, quand il y a eu un miracle des pains, Jésus va se présenter comme le pain de vie. Hein? Dans les autres évangiles, on voit les miracles, mais là, on voit le sermon qui l'accompagne, qui aide à comprendre ce pain-là, à quoi qu'il se rapporte. Et il se rapporte au pain, la manne, Jésus, ce pain qui nourrit, etc. Il utilise des images régulièrement de ces miracles pour que ces signes puissent porter aussi un message qui vient de Jésus sur son identité. Et c'est fait continuellement à travers l'Évangile. Et notre Seigneur délivre certainement un message spécial ici pour son peuple. Et là, je lis un auteur que j'apprécie. Et dans l'Ancien Testament, la nation est comparée, vous savez, à une mariée à Dieu, infidèle à son alliance matrimoniale. Israël était à court de vin. Il ne lui restait que 6 vases vides. Et l'eau dont il disposait servait au nettoyage extérieur, vous savez. Parce qu'on gardait de l'eau pour la purification, pour certains rites. Fait qu'on gardait toujours de l'eau pure, propre, dans une jarre comme ça, pour n'importe quel lavage avant des cérémonies, lavage de mains, de corps, etc. Mais ça nettoyait que l'extérieur, pas l'intérieur de l'être humain, n'est-ce pas? C'était des symboles extérieurs. Mais il ne parvenait jamais à nettoyer l'intérieur de l'être humain. Rien qui puisse apporter la joie. Grâce à ce miracle, notre Seigneur apporte la plénitude là où il y a manque. La grâce, la joie, à la place de la déception. Il apporte un élément intérieur pour ceux qui se réservent à un usage extérieur, l'eau pour l'ablation des rituels. Et c'est intéressant, hein? Parce que dans l'Ancien Testament, on voit l'eau qui est transformée en sang comme premier signe et signe de jugement avec Moïse. Et tout à coup, ici, c'est un symbole complètement différent. Le symbole du jugement, ici, est plutôt un premier miracle de Jésus qui nous montre la grâce de Dieu, qui nous montre sa compassion dans ce miracle très particulier, dans des circonstances uniques et particulières. Mais je retiens ici, de cet apport-là, l'obéissance dans la foi apporte de la joie. Et ces gens-là, vous savez, Jésus leur permet, dans un service qu'ils n'ont aucune espèce d'idée, faites juste faire ce qu'il vous dit. Eux autres ne comprennent pas ce qu'ils font, là. Ils remplissent juste de l'eau, eux autres. Mais ils ne réalisent pas qu'en obéissant à cet ordre-là de Jésus, qui obéit à l'ordre que Marie a donné, sans comprendre, ils font les gestes. Mais Jésus leur permet de participer à ce miracle, à toucher. Il utilise des mains humaines, bien imparfaites dans ce service, comme il le fait aussi avec les pains. Hein, la distribution des pains pour les 4000, pour les 5000, il leur permet de distribuer, de participer au miracle. Et ça, c'est la grâce de Dieu, qui, lorsqu'on accepte d'obéir, il nous donne l'occasion de participer, de toucher, d'avoir une part par nos mains, nos pieds, notre sueur, active, en servant dans l'intervention de Jésus. Et n'est-ce pas la grâce de Dieu qui nous donne l'occasion de parler de lui, de briller pour lui, d'aimer comme lui, d'aimer à travers nous, les gens autour de nous. Il nous permet de participer au miracle dans une obéissance très simple, sans qu'on comprenne où ce que ça nous amène. Dans une obéissance simple de service, Dieu nous permet de collaborer avec lui. Une mère qui conduit à Jésus, pas à elle-même. Toute l'attention s'est portée vers Jésus, le Fils de Dieu. Et après ça, il disparaît de l'histoire. L'attention se tourne uniquement vers Jésus. Je vous lis un texte ici que j'ai beaucoup apprécié par un vieux prédicateur qui me touche toujours beaucoup, M. Swindoll, qui dit ceci. Le véritable enjeu ici dans ces versets, le véritable enjeu lors de ce mariage n'était pas que le vin vienne à manquer, mais qui l'a remplacé? C'est ça l'enjeu. Jésus avait pris de l'eau ordinaire, mise de côté pour laver les mains des invités et les ustensiles de la table, et l'avait utilisée pour produire le meilleur des vins. Ce miracle était un miracle de création, parce qu'il crée quelque chose à partir de rien, à partir d'un liquide pour lequel on ne comprend pas que puisse venir en un instant du vin. Une démonstration vivante que tout ce qui a été fait par lui. Vous savez, on le dit dans Jean chapitre 1. Lisez-le avec moi, Jean chapitre 1. Tournez d'un chapitre, on va lire deux versets. On dit ceci au verset 3 du chapitre 1. « Tout fut créé par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Regardez ensuite au verset 14. « Le Verbe, la parole, s'est faite chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Sa gloire, le Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Et ici, c'est ce qui va arriver. Ils vont voir sa gloire, ceux qui vont en être témoins, et vont être témoins de sa capacité de créer dans ce miracle. Ce miracle démontre également que Jésus était seigneur du temps, puisque le vin nécessite normalement beaucoup de temps. Son vin est fait à l'instant. Avait fermenté et en une fraction de seconde. Ainsi, sa gloire fut révélée, comme nous dit le chapitre 1. Le voile de son tabernacle terrestre s'est levé très brièvement de sa demeure terrestre, très légèrement pour laisser remplir la gloire de Dieu dans cette intervention et savoir qui il est. Ses serviteurs le savaient, Marie le savait, les disciples le savaient. Et c'est tout ce qui comptait. Une application intéressante de cela, vous savez, d'un simple geste de cette eau en vin. Jésus peut prendre l'eau trouble de nos vies. Jésus peut prendre l'eau trouble de nos vies, qui a tant besoin d'être purifiée, et la transformer en vin de qualité. Peu importe comment brouillée est ta vie, Jésus, Créateur, Tout-Puissant, peut transformer ta situation en quelque chose de merveilleux, aussi tordu et chaotique qu'il puisse être présentement. J'ai tellement entendu ça de souvent des gens qui, découragés de leur vie, il n'y a rien à faire avec ma vie. Et c'est là que tout à coup, Jésus a de la place. Quand il n'y a plus rien à faire avec ta vie, tout à coup, il y a de la place pour Jésus. Parce que tant qu'il y a quelque chose à faire avec ta vie, tu vas essayer de le faire toi-même. Tu vas essayer de l'arranger toi-même. Tu vas mettre des plasters. Tu vas trouver des solutions. Tu vas avoir des psychologues. Tu vas prendre des pelules. Et j'ai rien contre toutes ces choses-là, là. Mais tu vas tenter par toi-même des solutions. Mais quand il n'y en a plus de solutions, que ta vie semble inutile, que les gens vont contempler même le suicide comme solution, quand il n'y a plus rien à faire avec ta vie, qu'elle semble trop chaotique pour être réutilisable, tout à coup, dans l'humilité de cet échec, il y a de la place pour Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Mais tant que je suis capable de m'arranger tout seul, je m'arrange tout seul. N'est-ce pas? Comme le petit gars qui essaie d'attacher son soulier là, à 4-5 ans qu'il a appris. Là. Puis là, il essaie. Puis là, il est en train de brailler, il ne veut pas demander. Il est capable tout seul. Je suis capable tout seul. Puis tant que je suis encore capable tout seul, je vais m'arranger. Mais quand il n'y a plus rien, là, il y a de la place pour Jésus dans ta vie. Est-ce qu'il faut que tu attendes aussi loin? Ou est-ce que tu peux lui donner la place maintenant pour la situation que tu vis? Comme mère, comme parent, la situation qui te trouble présentement, la situation qui apporte du chaos dans ta vie, est-ce que tu as besoin d'attendre aussi loin ou est-ce que déjà tu peux tomber à genoux? Dis, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Transforme-le. Ce qui semble impossible à sortir quelque chose de bon, tu peux faire sortir quelque chose de bon et même de très bon. Pas juste bon. Et ça, c'est l'aspect incroyable de Jésus. Nous, ça serait impossible de récupérer cette situation-là sur Terre. Des situations de guerre. Comment récupérer une situation de guerre? Et pourtant, Jésus trouve le moyen. Il y a des centaines, des milliers d'hommes et de femmes qui, sur la ligne de front, se convertissent. Il trouve moyen, Seigneur, de bénir des gens et de faire sortir des âmes de la perdition à travers les moments les plus difficiles d'une vie. Ça, c'est notre Créateur. Et d'en faire un bon vin, de bon goût, utilisable pour sa gloire. Nos vies n'ont pas besoin de rester insipides, confiées dans des cruches de pierre en marge de l'existence. Nous pouvons être pleins de corps, couler à flot et être festifs. Il suffit d'un petit geste de la part de Dieu, du Dieu grand, redoutable, aimant et puissant pour intervenir. Vous savez, la mère que la foi conduit ses enfants à Jésus-Christ. C'est tout ce qui est important. Il y a un problème. On va prier pour le problème. Au lieu de chercher toutes les solutions, on va prier, on va en parler à Jésus. Le plus beau geste qu'une mère peut faire, c'est de conduire ce qu'elle aime à Jésus, comme Marie le fait. Si simple, et pourtant, on a tellement de choses qu'on fait des fois qui nous distrait d'aller vers le plus simple et l'essentiel. Et Marie nous le démontre ici avec tant d'attention. Plusieurs, vous savez, utilisent cette image aussi pour parler de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance à travers le vin qui est transformé ici pour parler que symboliquement ce miracle pointe vers le christianisme qui est la nouvelle alliance, qui est meilleur que le judaïsme. Mais le texte ne le dit pas. Il y a peut-être des attentions intéressantes que les auteurs suivent là, mais le texte ne le dit pas. Mais ce n'est pas impossible. Vous savez, l'ordonnateur, lui, a ignoré tout ce qui est arrivé. Ça y est passé sous le nez sans jamais qu'il sache rien. Les serviteurs, eux, ils savaient. Mais ce qui est plus important au verset 11, c'est que les disciples ont cru. Vous pouvez ne pas le savoir, c'est correct. Vous pouvez le savoir, c'est bien. Mais l'important, c'est est-ce que vous avez cru? Pas juste avoir l'information, pas juste le savoir qu'il a fait un miracle et qu'il a fait des miracles, mais qu'il en fait encore. Mais est-ce qu'il est digne de ma foi, de lui confier toute ma confiance? Et c'est ce que le verset 11 nous dit, qui est le centre de cette histoire. Jésus sauve de l'embarras, mais plus que juste l'embarras d'un mariage. Son but, ce n'est pas juste de sauver la face de cette famille-là, mais c'est de se glorifier à travers ça. Et que certains qui vont être au courant viennent à une confiance totale, comme Thomas, en Jésus. Avez-vous placé votre confiance totale en lui? L'idée ici clé à retenir, c'est que la plus grande mission d'une mère, c'est de dire à ceux qu'elle aime, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Dernier texte que j'aimerais vous regarder avec moi. Regardez dans le chapitre 19. Chapitre 19, on va terminer ce matin avec ces quelques versets et appliquer cela à nos vies. Ces dernières paroles de Jésus, on en a déjà mentionné, je crois, l'année dernière, brièvement. Mais j'aimerais juste y revenir brièvement en terminant ce matin et avant de mettre des applications à tout cela. Chapitre 19, verset 25, on lit ceci. Près de la croix de Jésus se tenait debout, pas à terre en train de pleurer, debout. Elle était là, debout, sa mère. Sa sœur, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, près d'elle le disciple qu'il aimait, qui est Jean, l'apôtre Jean, Jésus dit à sa mère, « Femme, oui, c'est encore, hein, ça, femme, c'est pas impoli ici, ok? C'est plus une distanciation, madame, voici ton fils. » Jésus est en train de souffrir. Jésus porte vos péchés et mes péchés et tous les péchés de l'humanité dans sa souffrance. Jésus est parfait, sans aucun péché, n'a jamais fait de mal à une mouche, littéralement. Il est créateur. Il trace un chemin nouveau vers nous alors que nous, on ne va pas vers lui. Lui vient vers nous. Il porte tout ça sur le dos. Il dit à un moment donné, « Père, il se sent seul. Pourquoi me suis-je abandonné? » Et pourtant, dans tout le cumulé de ces souffrances atroces qu'il vit sur son corps a été torturé, labouré, il saigne de partout, il y a des trous, il y a une couronne qui fait mal, il est au bout de son souffle et il voit sa maman. Et il est préoccupé pour le sort de sa maman terrestre et le lie à son jeune disciple. Il y a un geste d'amour ici de Jésus qui est juste... Je ne pourrais jamais le décrire, l'ampleur ici du geste de Jésus à l'égard de sa maman. Pas pour qu'on l'adore, sa maman, pour montrer Jésus, son cœur, son respect, son souci des âmes. Il est au paroxysme de la souffrance humaine, qu'aucun d'entre nous ne va jamais arriver là à ce que Jésus a vécu. Et il est soucieux. Et elle est debout. Elle ne s'est pas sauvée quand son fils allait être martyrisé, traité comme ça devant les Romains, devant son peuple. Elle se tient debout au pied de la croix du Messie, de son fils. Elle est là jusqu'au bout avec lui. Wow! C'est un moment extrêmement intense qu'on est en train de lire ici. Là. Et Jésus montre un souci pour sa mère qui nous émeut complètement. On est ailleurs en termes d'amour, un amour parfait, un amour incroyable. Et c'est cet amour-là qui fait que vous et moi, on peut être sauvés. Amen. Sans un amour comme ça, on serait perdus. Quel amour! Je vous lis le dernier verset. Il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis ce jour, le disciple l'a pris chez elle. On dit même que l'apôtre Jean aurait, lorsqu'il a quitté Jérusalem en 70, ou peu avant, il aurait quitté pour aller à Éphèse et il devient évêque d'Éphèse. La tradition nous dit qu'il est parti et qu'il a été accompagné de Marie. Et c'est pour ça qu'à Éphèse, on va trouver une ancienne basilique, un ancien temple d'adoration chrétien qui est du nom de Marie. Parce que Marie serait morte là en ayant accompagné son nouveau fils, Jean, à qui il est confié. Elle est confiée. Wow! L'amour d'une mère qui reste debout dans la douleur. L'amour de Jésus pour sa mère, même sur la croix. L'amour de Christ, vous savez, nous pousse à honorer et protéger nos mères. L'amour qui devient spirituel aussi. Jésus montre que la famille de Dieu dépasse les liens de sang par cette attention. Voici ton fils. Oui, mais ce n'est pas son fils biologique. Oui, non, mais la famille spirituelle, ça dépasse la biologie, les amis, là. C'est une nouvelle famille. Et il fait cette distinction-là ici. Dans la manière dont son rapport avec sa mère sur un nouveau fils qui n'est pas de son sein. Et vous avoir une nouvelle relation spirituelle. Mère-fils dans la foi. Wow! En Christ, vous savez, l'amour maternel devient un modèle pour toute l'Église. L'amour d'une mère reflète le cœur de Dieu, fidèle, présent et prêt à tout donner. Et n'est-ce pas ce que beaucoup de mamans font? Prêtes à tout donner et se sacrifier. Comment atterrir tout cela? Quelques applications que j'aimerais vous partager ce matin, 4 en particulier, pour terminer cette matinée. Vous savez, bien que Jésus ait changé l'eau en vin, ça ne justifiera jamais rien au niveau de trop prendre d'alcool. Ah, mais c'est pas grave, l'alcool, Jésus a changé l'eau en vin. Ça approuve qu'il est en train de vouloir approuver ça. Pas sûr, moi, que c'était vraiment ça le message, là. J'étais un peu tordu. Vous me suivez? Et combien de fois j'ai entendu ce genre de choses? Pas pour justifier l'ivrognerie, là, mais quand même, là, que c'est correct de boire du vin parce que Jésus a changé l'eau en vin. Là. Hey, le principe, c'est pas de savoir si c'est correct de prendre du vin. La Bible nous le dit qu'on a cette liberté-là. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu avec le vin, c'est l'abus d'alcool. Okay? C'est de trop en prendre, trop souvent, en trop grande quantité. De pas savoir se gérer, se contrôler, et les gestes qui peuvent s'en suivre lorsqu'on abuse. Mais n'allez jamais laisser ce premier miracle unique à Cana est un justificatif pour le vin. Ce n'est pas le but du texte, mais pas pantoute. Tu diras, bien, va le relire, le texte. Ce que Jésus veut que tu comprennes, c'est lui. C'est celui qui a fait le miracle. Ce qu'il veut que tu comprennes, c'est que tu as besoin de croire comme les disciples et de voir en Jésus la gloire de Dieu sur terre et qui mérite toute ma confiance. Pas de justifier la boisson. Fais attention aussi avec la boisson. Faisons attention, c'est si facile pour chacun d'entre nous de trop en verser et de prendre ça à la légère. Et tellement de gestes ont souvent été faits dans des circonstances comme ça qu'on regrette, des paroles. Mais vous savez, dans une famille où il y a trop d'alcool de prix, lorsque le Seigneur libère de l'alcool, il peut tout à coup transformer l'alcool en vêtements, l'alcool en paiement du loyer. L'alcool en des chaussures, puis des choses utiles pour le foyer qui sont perdues souvent dans l'alcool. Et ça, c'est important. Lorsque ma mère a changé de foyer, elle était avec un alcoolique comme père. Je ne vous donnerai pas trop de détails, mais ça fait que ma mère a une grande sensibilité sur la question de l'alcool. Je n'ai jamais pris d'alcool jusqu'à l'âge de 25 ans, par choix personnel, là. Mais chez nous, il n'y avait pas de boisson. Ma mère était marquée par ça. Mais quand elle a changé de foyer, il manquait à cause de l'alcool dans son premier foyer. Mais lorsqu'elle a changé de foyer et qu'elle a été aimée par un homme et une femme qui ont été ses parents pendant 12 ans de sa vie, là, elle a vu Dieu pourvoir à tous ses besoins quand il n'y avait rien. Eux autres, ils manquaient de tout. Ils priaient pour la nourriture souvent et le Seigneur livrait à porte de nulle part. Et elle a vu Dieu pourvoir. Elle a quitté un manquement pour vivre un autre manquement, mais que là, Dieu pourvoyait toujours pour elle. J'en dirai pas plus. Deuxièmement, Jésus offre le meilleur, vous savez, dès le début, pas après. La joie du monde, vous savez, finira par échouer éventuellement, car il est éphémère, que temporaire. Mais la joie que lui offre donnera toujours et durera toujours. Assurez-vous d'inviter Jésus dans votre vie, pas juste au mariage ou dans des événements, mais de lui obéir à tout ce qu'il vous dira, même quand tu ne comprendras pas pourquoi il a dit ça. Mais peut-être que tu te comprendras plus tard. Ce n'est pas grave de devoir toujours comprendre. Ah, mais je veux comprendre, je veux comprendre. Oui, mais il y a des choses qui m'échappent. Que des fois, ça prend des années comme enfant, que mes parents me disaient « fais pas ça », puis je ne comprends pas pourquoi j'avais l'impression qu'ils me privaient. Mais plus tard, tout à coup, je comprends quand je deviens moi-même parent même, hein? Ah, c'est pour ça qu'ils me disaient ça, mes parents. Mais là, je veux comprendre, parce que je ne comprends pas, bien, je vais le faire quand même. On est comme ça, naturellement. Si Jésus est digne de confiance, les amis, même si tu ne comprends pas tous ses commandements, et pourquoi il me demande de ne pas faire ça? La Bible prétend qu'il mérite notre confiance. La Bible prétend que tu n'as pas toujours besoin de comprendre tout pour obéir. Tu as juste besoin de faire confiance. Et il a montré dans ta vie qu'il est digne de confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il le mérite. Au premier abord, le monde semble offrir le meilleur, mais une fois que vous êtes accro à la situation, tout à coup, il y a la dégradation. L'argent est bel au début, le plaisir, les ci, les ça, l'accomplissement, les diplômes, à un moment donné, tu es accro, mais ça se dégrade. Jésus, par contre, va toujours offrir ce qu'il y a de meilleur, dès le début, jusqu'à nous jouissions de ses meilleures bénédictions dans le royaume éternel qu'il prépare pour nous. Et ça va en lien avec le troisième point, collaborer avec Jésus. Parce que si on lui obéit, même quand on ne comprend pas, il nous permet de participer au miracle sans comprendre, mais d'y participer. Et ça, vous savez, c'est toute une leçon ici qu'on a à retenir. Vous savez, quand il y a eu le miracle au tombeau de Lazare, il y a des gens qui ont dit, roulez la pierre. petite question, Jésus, 4 jours. 4 jours, on ne roule pas la pierre après 4 jours. Ça sent. Rouler la pierre, j'ai dit. Il fallait des gens qui allaient rouler la pierre. Ils ont participé par leur obéissance sans comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont participé, n'est-ce pas? En obéissant sans tout comprendre nécessairement tout le temps ce qu'ils ont fait. L'homme, l'aveugle qui a été guéri, n'est-ce pas? Mis de la boue, va te rincer. Ben là, rince-toi toi-même, là. Ne me tente pas, là, je vois pas où est-ce que je vais. Va te rincer. C'est-tu le rinçage qui l'a guéri? Non. Mais Jésus lui demande un ordre de participer à son œuvre. Sans comprendre l'issue, sans comprendre en quoi ce geste-là va être pertinent. Jésus, il aurait pu, en même temps, regarde, on va rouler la pierre d'un geste de bras, là, puis là, il va sortir. Et pourtant, Jésus nous permet de participer. Mais pour participer, il faut croire. Il faut obéir. Et vous savez, c'est souvent dans des situations qu'on ne comprend pas, qui est le plus bel obéissant, justement, et qu'après ça, de voir, hey, j'ai pas compris, mais finalement, il est arrivé ça. Mais il me semble que Dieu me le disait de le faire. Il me semble que je devais faire ce geste-là sans comprendre. Et là, de voir les fruits. Wow! Dieu veut te faire participer. Il ne veut pas juste que tu sois un spectateur. Il veut t'embarquer dans son aventure de mener des âmes à Jésus. Il veut que tu aies les deux mains dedans, les deux pieds dedans, même quand tu ne comprends pas. Et tu vas être béni d'y participer. Mais il faut que tu croies. Il faut que tu obéisses. Collaborons. Collaborons avec Jésus. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et finalement, la dernière chose, prenons la posture de Marie. Restons debout à la croix. Restons devant Jésus à la croix à admirer son sacrifice. Toujours solidaires avec Jésus. Restons à la croix quand c'est difficile puis qu'il y a de la douleur. Restons à la croix quand je ne comprends pas pourquoi je devrais rester là. Et pourtant que toutes dans ma vie, passe par la croix de Jésus. Toute victoire, tout changement, toute transformation passe par la croix de Jésus dans ma vie. Il faut encore, comme Marie, que je me tienne debout là, que je sois présent. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je suis là. Aide-moi. Interviens dans ma vie. Et peut-être vous êtes là ce matin avec une situation qui vous pèse. Je vais vous inviter à aller dans la prière avec moi ce matin et de prier au Seigneur qu'il vous donne la force de rester debout comme Marie, de lui confier la situation que vous avez, de lui faire confiance. Il le mérite. Prions ensemble. Oh, Papa Céleste, quel amour de Jésus à la croix pour nous. Quel amour de Jésus indescriptible. Que nos cœurs ce matin soient dans la joie, que nos cœurs soient dans l'admiration, que nos cœurs soient émerveillés, Seigneur, devant tant d'amour qui nous dépasse. C'est cet amour, Seigneur, qui m'a sauvé, enfant. Et c'est cet amour, Seigneur, qui me soutient encore aujourd'hui à marcher à ta suite, même lorsque c'est difficile. C'est cet amour, Seigneur, qui m'aide à aimer les autres lorsqu'ils ne sont pas aimables ou quand je n'ai juste pas le goût de les aimer, parce que je n'ai pas le goût d'aimer les autres, quand c'est dur. C'est cet amour en moi, Seigneur, que tu as placé par toi, qui me permet d'aimer les autres et de vivre ta transformation, de participer à ton œuvre. Oh, merci Seigneur pour cet amour à la croix. Merci pour la manière dont tu as traité ta maman sur terre. Quel exemple. Merci pour sa fidélité, son souci pour les autres. Merci pour le fait qu'elle a apporté les soucis à son fils Jésus. Merci pour ce modèle, bien qu'imparfait, d'une mère. Merci qu'elle a tenu bon, Seigneur, et qu'elle a été loyale à se tenir au pied de la croix lorsque son fils était défiguré, lorsque son fils était dans une atroce souffrance et qu'elle ne pouvait pas rien faire, qu'elle était sans mots, sans gestes qu'elle pouvait faire, mais qu'elle est juste témoin. Et Seigneur, tu lui as montré que ce n'était pas ça qui comptait le plus, mais qu'elle reçoive l'amour de son fils. Oh Seigneur, puissions-nous ce matin recevoir ton amour. Puissons-nous l'apprécier, louer et adorer cet amour, qu'elle nous transforme lorsque j'ai des victoires que j'aimerais avoir mais que je n'ai pas encore, lorsque j'ai des découragements, lorsque je ne sais pas quoi faire avec ma situation. Oh Seigneur, transforme cette situation en bon vin. C'est juste toi qui peux le faire. On veut te faire confiance ce matin et te demander, Seigneur, de tout cœur, de bénir les mamans. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.